RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Et c'est reparti pour cette deuxième heure des moments intenses de Lahaye, l'amour et vous. Et au programme de cette deuxième heure, un love conseil sur les vertus du Jensen pour booster votre libido. Nous aurons également les conseils de Christophe André, les réactions assez curieuses de Catherine au moment de l'orgasme et les solutions de David pour lutter contre la routine après plusieurs années de vie commune. Mais tout de suite, nous écoutons Sylvain Mimoun qui nous avait expliqué l'impact réel d'Internet sur notre comportement sexuel et amoureux.
Il y a deux éléments qui sont survenus, on va dire, ces 10 ou à fortiori 15 dernières années. C'est d'une part qu'Internet, qui était il y a 10 ans un épiphénomène, est devenu absolument permanent aujourd'hui en consultation. La deuxième chose, c'est que ça interfère sur la vie sexuelle des gens. C'est-à-dire qu'ils voient, avant ils regardaient la télé, ils se demandaient, tandis que là sur Internet, ils peuvent voir en pratique ce qui se passe, ou pensent-ils ce qui se passe chez tout le monde, sur le plan sexuel. Et ils veulent faire ce qu'ils voient à l'image. Et du coup, ça devient quelque chose, une sorte de jeu où ils se sentent, ils se rendent même pas compte, coincés par ce jeu-là. Mmh. Là où c'est plus dangereux, et ça c'est plus nouveau, c'est que il faut savoir avec qui on est. Et ça, on ne sait pas toujours avec qui on est.
C'est le fameux sex revenge qui a de plus en plus
exact lieu de plus en plus. Mais c'est vrai que l'idée, c'est que si on croit être avec quelqu'un, a fortiori même quelqu'un qu'on apprécie, si ce n'est qu'on aime, donc on se sent en toute confiance. On peut se dire, tiens, on va s'amuser un peu, on va faire un peu des jeux sexuels pour s'exciter plus, etc.
Ça, avec une webcam, on se fait filmer.
Voilà, mais c'est entre nous, donc on se dit, on laisse ça tranquillement. Et puis tout d'un coup, on se rend compte, alors qu'on a rompu, que finalement, ces images qui avaient été filmées, ou des photos qui avaient été prises, vont être jetées sur Internet, et avec aucun contrôle de quoi que ce soit et par qui que ce soit. Et là, on se sent doublement ou triplement blessé.
Et après, c'est très compliqué de supprimer des images qui circulent sur Internet.
C'est très compliqué, même si Google a fait une nouvelle, je ne sais pas s'il y a une loi ou une sorte de protection, ou disant que les gens qui sont gênés par des images qui sont là peuvent en faire de la demande et voir un peu est-ce que c'est facile ou pas facile à enlever. Ça, j'en sais rien. Je pense que les spécialistes de la gestion d'Internet peuvent le dire. Certains spécialistes à qui j'en ai parlé m'ont dit que oui, maintenant, on peut faire la demande. Mais faire la demande, ça ne veut pas dire être accepté.
Parfois, le mal est fait. Si on a envoyé votre vidéo en train de faire une fellation à toute l'entreprise dans laquelle vous travaillez, le mal, il a été fait.
Voilà, après, vous pouvez dire, on l'a enlevé, oui, mais les gens vous rencontreront ce qu'ils ont vu, et quand ils se souviennent ce qu'ils ont vu, ils ont toujours vu plus que ce qu'il y avait. Donc...
Oui, ça c'est vrai aussi. David est avec nous pour témoigner. Bonjour David.
Oui, bonjour Brigitte et Sylvain.
Bonjour.
Donc, je vais vous expliquer en quelques mots. Donc, moi j'ai 34 ans, ma femme 32. Donc, on s'est connus très jeunes. Moi j'avais 18, ma femme 16. Donc, il y a 16 ans qu'on se connaît et 8 ans qu'on est mariés. Mmh. Si vous voulez, donc, comme tous les couples, je pense que la routine s'est installée petit à petit. Donc, je propose à ma femme, pour mettre un peu de piment, d'aller dans des clubs libertins ou essayer de mettre un peu de piment, aller dans les sex shops ou autres, dans des lieux insolites, quoi. Et ma femme n'est pas du tout d'accord, quoi. Donc, j'aurais voulu savoir comment l'emmener petit à petit ou avoir des conseils, quoi.
Oui, alors de toute façon, si elle n'est pas du tout d'accord, il faut envisager peut-être un échelon en dessous. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aller peut-être dans un lieu, je pense par exemple au musée de l'érotisme ou quelque chose qui soit plus artistique que sexuel, par exemple.
Et il faut surtout que, en fait, il faut partir d'elle plutôt que de vous. Vous avez envie de l'emmener, vous pensez vers le haut. Elle pense que c'est plutôt vers le bas et que ça et qu'elle craint pour cela. Il vaut mieux que vous vous adaptiez à elle plutôt que elle s'adapte à vous, parce que même si vous en faites un peu moins que vous croyez, elle trouvera de toute façon que c'est déjà trop. Alors que ce qui importe pour elle, c'est qu'il y ait la connivence entre vous deux, voire la relation entre vous deux. Et cette relation que vous avez ensemble, vous pouvez jouer ensemble. Mais tant que ça ne concerne que vous deux, même quand Brigitte parle du musée de l'érotisme, le musée de l'érotisme, ça peut être très excitant si vous y allez ensemble et ça ne regarde que vous. Vous voyez les images que vous voyez, que vous voulez, les bouquins que vous voulez, les situations éventuelles. Mais ça reste quand même que vous et elle. Et à partir du moment où vous êtes dans cette relation-là, peut-être que ça ouvrira des portes dans vos têtes à l'un et à l'autre, et à elle en particulier, mais sûrement pas en la mettant dans un lieu où elle va se sentir d'emblée mal à l'aise avec tout ce que ça comporte de blocage chez elle. Parce que ce qui peut aboutir, c'est que finalement, elle soit avec vous ailleurs, mais qu'elle soit complètement bloquée. Et l'ennui, c'est que si elle est bloquée, c'est qu'elle est bloquée lorsqu'elle sera dans cette boîte ou dans ce lieu libertin, mais elle risque d'être bloquée même après.
Une fois, elle m'avait dit, pendant un acte sexuel, elle m'avait dit ouais, qu'elle aimerait bien aller dans un sex shop et tout, puis après...
Quand on est dans l'acte sexuel, on peut dire plein de choses. Il faut jamais trop prendre ce qu'on dit pendant un acte sexuel pour argent comptant. Hein.
Au pied de la lettre, en tout cas.
Alors, je sais pas, mais demandez-lui ce qui pourrait elle l'amuser.
Laissez-la devenir meneuse.
Parce que moi, je pense qu'il faut plus parler de l'amuser que de l'exciter. Déjà, ça va adoucir vos propos.
Autrement, j'avais proposé des fois il y a des salons tous les ans, les salons de l'érotisme.
C'est très pornographique quand même, hein, les salons de l'érotisme pour démarrer. Ça peut être choquant. Hein.
Ouais, pour quelqu'un qui n'est pas branché, ça risque de la bloquer fortement. Ouais.
D'accord, je pensais pas que c'était à ce point-là.
C'est vraiment pour des personnes qui ont déjà l'habitude de fréquenter la pornographie.
Ça, non. C'est les gens qui veulent sortir des clubs libertins et qui veulent se divertir un peu.
Ah, je pensais pas que c'était à ce point-là quand même les salons.
Oui, je sais bien que ça s'appelle salon érotique, mais c'est chaud hein, quand même.
Ah oui, d'accord.
Par exemple, David, est-ce que vous avez déjà lu Union ensemble?
Non, elle est pas très bon.
Elle est pas très, donc on voit bien que c'est pas ça qui l'excite, David. Donc il faut arriver à trouver d'autres pistes que des choses érotiques ou pornographiques.
Et même si elle vous a dit qu'elle veut bien aller dans un sex shop, visiblement c'est qu'elle a envie de vous faire plaisir, ce qui est déjà pas mal, mais comme je vous dis, suivez-la, elle, plutôt que l'inverse.
Parce qu'elle me dit pour l'instant, elle se sent pas prête. Elle me dit peut-être un jour, mais pour l'instant...
Est-ce que vous l'avez déjà prise en photo un peu sexy?
Ah non,
mais
pas du tout.
Mais là, on est vraiment en dessous du niveau de la mer.
Voilà, il faut revenir en première année, là. Il faut revenir en première année, c'est-à-dire revenir. Et l'ennui, c'est que plus vous attendez que vous alliez ensemble dans un lieu libertin, plus vous êtes frustré du fait que vous n'y alliez pas. Et le fait de vous sentir frustré, ça ne fait que créer des tensions entre vous, parce qu'elle, elle recule plutôt qu'elle n'avance quand elle vous sent comme ça.
Bon, David, essayez l'humour. Il y a des jeux qui existent maintenant. Essayez de vous amuser déjà comme ça.
D'accord.
Hein, pour lever un peu ces nombreuses
inhibitions. Des jeux sexuels avec de l'humour, des cartes d'humour ou du je ne sais quoi.
Essayez ces choses-là d'abord, d'accord?
Ok, très bien.
Merci David.
Au revoir.
Merci, bonne journée.
Et puis, Catherine est avec nous. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sylvain.
Bonjour.
Merci de m'accueillir sur votre émission.
Je vous en prie.
Je me permets de vous appeler. Donc j'ai un souci d'ordre de santé, on va dire. Ça fait deux fois que ça m'arrive. Donc là, en fin de semaine dernière et également hier. Donc après avoir fait l'amour, enfin en faisant l'amour avec mon ami, donc au moment de l'orgasme, j'ai la sensation que ma tête va exploser. Donc j'ai toute ma partie, la partie droite de ma tête et l'œil également, la sensation qui va ressortir. Donc c'est une sensation qui me fait extrêmement mal, donc je suis obligée de tout arrêter. Et je voulais savoir si c'était un cas éventuel que vous aviez déjà rencontré, ce que vous me conseillez de faire.
Alors, oui, on rencontre quelquefois ce genre de choses. Heureusement, la plupart du temps, c'est pas grand-chose. Ouais. Néanmoins, il faut pas prendre ça que par-dessus l'épaule. Et il faut essayer... La chose la plus fréquente, quand même, quand il y a cette montée de tension cérébrale, de la tête, quoi, ouais, c'est qu'il peut y avoir une hypertension. Donc, il faut vérifier sa tension. Je dirais même... Si c'est possible, faire vérifier sa tension pendant au moment où ça arrive. Hein, par exemple, il y a des personnes qui ont eu un holter, c'est-à-dire où on prend la tension en permanence. On peut enregistrer la tension tout au long de la journée. Et si le rapport sexuel se passe de cette manière-là, après le rapport sexuel, on pourra vérifier s'il y a eu une montée de tension ou non. Si c'est une montée de tension, bien entendu, le but du jeu dans ce cas-là, c'est de faire en sorte de traiter cette tension pour que les choses puissent se passer mieux. La deuxième chose, c'est que là, bon, ça fait peu de temps que vous avez ça, donc on peut pas dire que ça soit quelque chose qui soit réellement installé. Mais si réellement il n'y a que la douleur, on peut aussi prendre des antidouleurs juste avant le rapport pour calmer le jeu. Mais ce qui me paraît important dans votre cas, c'est quand même de faire vérifier, au moins par un examen cardio, ce qu'il en est sur le plan tensionnel, cardiovasculaire, etc. Et secondairement, après, c'est de voir, en fait, sur le plan vasculaire, même cérébral, s'il y a une gêne ou non, mais ça, en général, on n'a pas trouvé grand-chose. Mais c'est vrai qu'il faut, on peut pas faire, vous avez quel âge, 36 ans. Donc, oui. Donc là, c'est assez rare qu'à cet âge-là, il y ait des problèmes majeurs. Mais, s'il y avait un vrai problème, comme une tumeur, par exemple, pour dire les choses, en général, ce ne serait pas que pendant l'orgasme que vous auriez mal tout le temps.
D'accord.
Donc le fait que ça soit ponctuel comme ça, mettez-vous en situation, c'est plutôt rassurant. Mmh. Voilà.
C'est vrai que c'est à ce moment-là, évidemment, qu'il y a une tension
vaginale. Par définition, de toute façon. Quand pendant l'acte sexuel et pendant l'orgasme, il y a une montée de l'accélération cardiaque et de la tension.
D'accord, très bien. Donc je vais à ce moment-là, il faut que j'aille voir mon médecin traitant. C'est ça, parce que j'ai hésité entre ma gynécologue et mon médecin traitant. J'hésite entre les deux.
Moi, je conseillerais un cardiologue.
Un cardiologue.
Carrément. De façon à voir quelqu'un qui connaisse bien ce problème vasculaire.
D'accord, très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Mais je vous en prie, Catherine, on est là pour ça.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaye.
Alors, Élise, vous avez 35 ans, vous allez nous raconter votre drôle d'histoire, parce que vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un, hein, avec un homme, donc, pendant plusieurs mois. Et puis c'est votre entourage, hein, qui avait tendance à vous dire c'est peut-être pas l'homme de ta vie, notamment votre meilleure amie. Hein.
Tout à fait. Donc, mais en fait, je le connaissais depuis un petit moment déjà, et on s'entendait, mais sans plus. Mm-hmm. Et puis, finalement, il vient vers moi un jour et il me dit que je lui plais, et puis c'est réciproque, donc ça se passe très très bien. Et puis, je le dis aux gens qui m'entourent, dont ma meilleure amie, qui elle aussi le connaissait, et me dit « Ah non, mais ça va pas, mais tu peux pas te mettre avec un tel imbécile. » Voilà, mais même d'avant, elle ne l'appréciait pas plus, quoi. Elle m'avait toujours dit que c'était quelqu'un qu'elle n'appréciait pas et qui lui semblait pas quelqu'un de bien honnête. La relation se passe, tout se passe bien, ça avance, mais j'ai toujours des mots donc de ma meilleure amie. Dans son entourage aussi, c'est compliqué parce que nous étions de religions différentes en fait. Et puis, bref, on a pas mal de pression tous les deux et ma meilleure amie insistant. À un moment, j'avoue que je lâche l'affaire en disant c'est pas possible, ça va pas être possible. Et pourtant, je l'aimais et je l'aime toujours d'ailleurs. Et donc j'arrête notre relation et en fait, donc ma meilleure amie me dit que c'est très bien, etc. Et on restait quand même, on se téléphonait de temps en temps, on se parlait. Et puis, j'apprends que un jour il m'appelle en fait en me disant que il a appris que je lui avais raconté des mensonges. Et en fait, je ne pouvais pas me défendre et je savais pas quoi lui dire parce que je tombais des nues. Et en fin de compte, j'ai appris que c'était ma fameuse meilleure amie qui lui avait raconté quoi. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne croit que ce qu'on veut croire. Lui, il a préféré la croire et en fait, ils se sont mis ensemble. Et puis voilà, donc je me suis retrouvée comme une idiote, parce qu'en fait, il a cru tout ce qu'elle a pu lui raconter sur moi.
Oui, mais en même temps, vous l'aviez quitté, donc il avait, une petite dent contre vous, donc c'est assez logique qu'il ait cru votre meilleur ami, vous voyez. Mais ce qui est terrible dans ce que vous racontez, c'est comment les mauvaises fées, ça existe. Parce que finalement, même si aujourd'hui vous avez compris, c'était pas votre meilleur ami, hein, on est d'accord. Mais à l'époque, c'était votre meilleur ami, donc elle vous dit, écoute, cet homme, il est pas bien pour toi. À force de l'entendre, on finit par le croire, quoi. C'est terrible.
J'ai trouvé des défauts qui grossissaient et même des détails. Et comme lui aussi, de son côté, il avait de la pression, on s'éloignait. Mais alors que quand on était ensemble, ça se passait extrêmement bien. Enfin, voilà, on était dans une petite bulle, la pression extérieure a beaucoup joué. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est que cette fameuse fausse meilleure amie part derrière quand elle s'est mise avec et est venue me dire « Ah bah, il t'a pas dit ça ». Et enfin, elle continuait à dire, entre guillemets, du mal de lui. Mais devant lui, tout était merveilleux, quoi. Enfin, il est merveilleux, etc. Donc,
Ce qui est dommage, c'est que lui, à un moment ou un autre, il déchantera aussi, parce qu'une femme qui est capable de se conduire comme ça avec vous, je pense qu'elle est pas, très fiable non plus de toute façon avec cet homme. Hein. Mais là, où faut quand même que vous avanciez un tout petit peu sur vous-même, Élise. Pourquoi, au fond, la parole d'une amie femme est plus importante que les sentiments qu'on porte pour un homme? Il y a quelque chose à chercher là. Quand même.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous.
Je vous embrasse, Élise.
Merci beaucoup, en tout cas.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie. RMC, Brigitte Lahaie. Love Poussin.
Et oui, j'ai envie de vous parler du Janssen, parce que j'ai lu récemment, je ne sais plus où et qu'importe, qu'en fait, le Janssen avait une très bonne presse en ce qui concerne notre libido. Mais pas uniquement, en fait. Hein. Bon, c'est une racine, hein, le Janssen, qui fait partie de la pharmacopée asiatique, mais depuis de très 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 nombreuses années, bien au moins 2000 ou 3000 ans. Et il est riche en minéraux, il est riche en vitamines, et donc il a des effets positifs sur beaucoup de choses, notamment sur la fatigue. Il permet également une meilleure adaptation de l'organisme aux agressions, il diminue le rythme cardiaque, il améliore les performances physiques, il stimule les défenses naturelles. Bon, tout ça déjà, ça donne envie plutôt d'en prendre. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour notre libido? En fait, il semblerait que ça améliore le fonctionnement de nos organes génitaux en favorisant, sans doute, j'imagine, l'afflux sanguin. Il a aussi donc des effets bénéfiques sur l'érection, sur la libido des femmes ménopausées. Il agirait aussi contre le stress. Voilà. Bon, alors, tout ça, il faut évidemment le prendre avec des pincettes. Hein. Il suffit pas de manger une racine de Janssen pour jouer dans un film porno. Mais ce que j'ai surtout voulu voir, c'est s'il y avait des effets franchement négatifs. A priori, non. Sauf si on est vraiment avec des problèmes cardiaques ou des états nerveux très, très, très importants. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer de mettre un peu plus de Janssen dans notre alimentation, puisque a priori, ça ne peut nous faire que du bien. Et nous avons maintenant la chance d'avoir à notre côté la star des psys. Je sais que je le fais exprès, Christophe André, je m'amuse. Bonjour.
Bonjour.
Vous n'allez pas vous plaindre d'être devenu très médiatique quand même?
Non, mais on en parlait hors antenne, effectivement. Il y a un moment où on est presque gêné de voir le nom et on voit en gros sur les couvertures des livres, etc. Mais bon, voilà, c'est très bien.
Alors, je précise qu'au départ, Christophe André, vous êtes médecin psychiatre, hein, vous l'êtes toujours d'ailleurs. Et puis, à un moment, vous êtes devenu un peu plus connu parce que vous avez d'abord beaucoup écrit sur la méditation notamment, hein, qui a été un livre qui a très très bien marché. Et là, vous avez eu envie de sortir cet ouvrage aux éditions Odile Jacob, toujours, et N'oublie pas d'être heureux. Alors c'est une sorte de petit dico avec plein de mots que vous avez eu envie de développer, et toujours pour montrer comment on peut vivre bien sa vie, se trouver à sa place. C'est un peu ça, hein, ce projet, oui. ce but de ce livre.
Bien sûr, c'est une méthode. C'est plus qu'un dictionnaire. D'ailleurs, j'ai voulu appeler ça un abécédaire, parce que dans l'abécédaire, il y a bien sûr l'ordre alphabétique, mais aussi la notion d'apprendre à lire, par exemple. Et là, c'est pour nous rappeler les efforts, ou certains efforts que nous pouvons faire pour augmenter un petit peu notre bien-être et notre bonheur.
Christophe André, on a beaucoup parlé ces derniers temps de cette fameuse crise de milieu de vie, et je me me suis rendu compte d'ailleurs que beaucoup de gens avaient des événements, notamment dans leur vie amoureuse, aux alentours de la quarantaine. Vous l'avez passé, cette crise de milieu de vie. Oui. Mais est-ce que c'est réellement un moment où on peut peut-être se poser et se dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant pour mieux appréhender la mort aussi, parce que vous en parlez dans cet ouvrage, et puis réussir vraiment ma vie au sens personnel?
Oui, c'est vrai que la notion de crise de milieu de vie ne fait pas l'unanimité chez les psys. Certains disent qu'au fond, c'est pas si clair que ça, et d'autres disent non, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors évidemment, c'est large, parce qu'on sait jamais si le milieu de la vie, c'est 40, 45, 50, 60, si c'est le milieu de la vie adulte ou le milieu de la vie tout court. Mais en gros, mon avis, et l'avis d'un certain nombre d'études, c'est qu'il se passe quelque chose à ce moment de notre vie où on sent effectivement que le stock d'années qui nous reste à vivre en bonne santé, pouvant faire des randonnées, avoir une vie sexuelle, avoir tout un tas de comportements qu'on aime bien pratiquer, ce stock est limité quand même, et qu'on en a un peu moins devant que nous n'en avons eu derrière. Et à ce moment-là, il se passe plein de choses dans la tête des gens, et pour certains, mais c'est une minorité, mais c'est celle dont on parle le plus, mais en réalité, d'après les études, c'est une minorité. Pour certains, c'est une crise douloureuse, ils n'acceptent pas leur vieillissement, mais pour la majorité des gens, c'est plutôt une crise qui les rend plus intelligents. Et on retrouve d'ailleurs dans les études, et j'en cite une dans le livre, des chiffres très nets qui montrent qu'à partir de 45 ans, souvent, les gens deviennent plus heureux encore qu'ils n'étaient à l'âge de 20-30 ans. Oui. Ils pigent des choses sur la vie parce que ils s'aperçoivent que c'est précieux, que c'est génial et qu'il faut vraiment profiter de tout ce qui nous reste à vivre.
Et alors vous, Christophe, André, qu'est-ce que vous avez pigé à un moment donné? Parce qu'il y a eu un tournant dans votre carrière quand même.
Oui, moi, le tournant, en fait, c'est la paternité. J'entendais, vous parliez tout à l'heure avec Alain Héril de l'exemple que doivent donner les parents. Et moi, ce truc m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, au fond, tu as la responsabilité de tes enfants, la responsabilité éducative. Et exactement comme le suggérait Alain Héril, c'est pas tellement ce que tu vas leur dire de faire ou leur dire de vivre qu'ils vont écouter, c'est ce que tu vas leur montrer. Tes enfants vont regarder comment tu vis, comment tu affrontes la difficulté, comment tu savoures les bons moments, et donc tu dois faire plus d'efforts parce que t'es pas encore tout à fait au point. Et ça a été quelque chose qui m'a fait vraiment passer dans le monde des adultes, la parentalité.
C'est ça, c'est devenir père peut nous faire devenir adultes.
Dans mon cas, en tout cas, on peut devenir père sans avoir d'enfants, on peut avoir des enfants sans devenir adulte, mais en tout cas, pour moi, la paternité est quelque chose qui m'a beaucoup fait mûrir, dans le bon sens d'ailleurs, ça m'a fait passer dans l'âge adulte, pour le meilleur plus que pour le pire.
Alors qu'est-ce que ça a changé justement chez vous? Comment vous êtes devenu plus sage?
Mais en tout cas, ça m'a tourné vers ce principe numéro un de la vie plus heureuse, ou le principe numéro un du bonheur, c'est de vivre beaucoup plus au présent. Mm-hmm. C'est être moins dans l'anticipation, je serai heureux quand j'aurai remboursé le crédit de ma voiture, de mon appartement, je serai heureux quand j'aurai eu ce boulot, je commencerai à m'occuper de moi quand je serai à la retraite, ou que sais-je encore. Être beaucoup moins aussi dans la rumination du passé, c'était mieux avant, finalement j'aurais pas dû faire ceci ou cela, et vivre davantage au présent. Alors c'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est la grande différence entre les choses qu'on sait vraiment et puis celles qu'on vit, qu'on pratique, qu'on
est-ce que, Christophe André, évidemment ça me parle, moi je développe sans cesse cette idée de vivre l'instant présent, mais est-ce qu'au fond, quand on n'est pas dans cette sagesse-là, si je puis dire, j'utilise le mot sagesse au sens large, philosophique, bien sûr. Est-ce que c'est pas parce qu'on a peur, parce qu'on a peur de l'avenir, parce que au fond, c'est pas simple de vivre l'instant présent. Il faut être pleinement dans sa vie.
Oui,
et il donc faut avoir amadouer ses peurs, non?
Bien sûr, c'est d'une certaine façon, vivre au présent, c'est un lâcher prise. On se dit, écoute, quoi que tu cogites sur l'avenir, il y a un moment donné où ça sert à rien. Accepte que ce qui doit advenir advienne. Bon, essaie de voir que le pire n'arrive pas quand même, tant que tu peux. Mais à un moment donné, lâche le truc. Et quoi qu'il arrive demain, essaie de profiter d'aujourd'hui. Et ça n'est pas de l'insouciance, je crois comme vous que c'est une forme de sagesse, mais cette sagesse ordinaire dont sont dotés tous les humains, on n'a pas besoin d'être quelqu'un
c'est du bon sens au fond.
C'est un bon sens, la capacité de recul, donc ça c'est de la sagesse qui est présente en chacun de nous potentiellement, et cette sagesse au fond de profiter du jour que nous vivons, de l'instant que nous vivons. Nous savons tous que c'est important, mais parfois nous nous faisons embarquer dans justement voilà ces anticipations ou ces ruminations.
Alors on parlait des adolescents tout à l'heure. L'adolescence c'est pas forcément une époque de sa vie où on est sage, où on a envie d'être sage. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'ils soient heureux justement ?
Alors, moi je crois qu'il ne faut pas trop casser les pieds des adolescents avec le bonheur, parce qu'il y a des âges de la vie qui sont plus propices à faire certaines expériences. Je pense qu'à l'adolescence, on est plutôt en train d'explorer les limites, en train d'explorer son identité, en train de chercher de l'intensité, du sens, des causes à défendre.
Donc, vivez quoi.
Voilà. Et on est plutôt dans la recherche d'intensité et d'énergie que dans celle de l'apaisement et de la sagesse. Ça vient un peu plus tard en général, la quête de la sagesse. Donc les ados, il y avait un conseil, mais en général, les ados ne suivent pas les conseils qu'on leur donne, mais bon, on le fait quand même. Un conseil à leur donner, c'est ne renoncez pas, bien sûr, à explorer, à foncer, à vivre dans l'intensité. Attention quand même de pas mettre trop d'intensité.
Un peu de garde-fou, quoi.
Ouais, voilà. Dites-vous bien que ça va vous amener beaucoup de bonnes choses, mais qu'il y a un moment quand même où ça peut vous conduire à des catastrophes épouvantables, quoi. Voilà.
Je vous propose qu'on donne la parole à Marc qui est avec nous. Bonjour, Marc.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, Christophe André est là, il vous écoute, vous pouvez...
Christophe André, bonjour. Disons que je me suis permis de vous contacter suite à un mail que j'ai envoyé pour tout d'abord vous congratuler par rapport à vos compétences et votre reconversion. Donc voilà, Brigitte, déjà, ça c'était un peu le premier coup de cœur.
Merci.
Et ensuite, je me suis permis aussi d'envoyer ce mail par rapport à ma situation. Et j'ai traversé des périodes extrêmement difficiles. Excusez-moi, je suis un petit peu ému.
Je vous en prie.
J'ai voulu mettre fin à mes jours, sans en parler à personne, donc je savais que ça pouvait que réussir. Et grâce à vous, Brigitte, et grâce à votre émission, je n'ai pas eu le courage de le faire.
Je crois, Marc, grâce à moi ou à cette émission ou à ce que certains de mes invités, vous avez eu le courage de vivre.
Tout à fait.
C'est peut-être ça plutôt qu'il faut dire, non ?
Mais tout à fait. Disons que j'ai travaillé pendant des années en écoutant que de la musique et un jour je suis tombé, du moins à la suite d'un gros événement dans ma vie, une grosse déception amoureuse au bout de 33 ans de mariage. Moi qui croyais dur et fort en amour, cette déception a fait que tout s'est écroulé autour de moi. Ma vie professionnelle, tout. En gros, tout. Donc, je me suis mis à ne plus écouter de musique et plutôt d'écouter des émissions culturelles. Et quand je suis tombé sur RMC, voilà, j'ai été séduit. Et puis, au fur et à mesure du temps et des années, de m'interroger sur les bonnes questions et de me remettre en question et d'avancer. Donc, voilà.
Merci en tout cas de prendre la parole, Marc. On voit, Christophe André, comment l'amour aussi peut être source de bonheur, certes, mais aussi source de... Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous aviez tout misé, j'imagine, hein, Marc, je ne sais pas, mais
oui.
Vous aviez tout misé sur votre couple, sur votre femme. Elle vous abandonne et tout s'écroule, quoi.
Elle m'a pas abandonné, mais bon, elle m'a trahi, donc c'est pareil.
C'est pire.
Voilà.
Ouais.
Bon, voilà. J'ai sauté le pas et j'ai rencontré une nouvelle femme qui m'épanouit du jour en jour et qui me rend l'homme le plus heureux du monde.
Faites pas la même erreur, hein. Remettez pas tout quand même dans le même sac. Hein.
Elle est pas du tout pareille et vraiment je suis tombé sur une femme extraordinaire.
Bah écoutez, on est ravis pour vous, Marc. Et c'est vrai que en lien avec le sujet dont nous parlions à l'instant, ce qui fait notre bonheur peut faire aussi notre malheur. Et avec la même intensité, et ça les philosophes l'avaient repéré depuis longtemps, et ils disent au fond, tu seras malheureux à la hauteur de ce que tu as été heureux ou de l'intensité avec laquelle tu as été heureux. Et c'est vrai, il y a un écrivain qui s'appelle Philippe Delerme qui avait avez écrit cette phrase que j'aime beaucoup, qui résume en peu de mots ce que vous avez vécu et ce que nous vivons tous les humains. Il avait dit « Être heureux, c'est avoir quelqu'un à perdre ». C'est-à-dire, c'est à la fois aimer quelqu'un très fort, mais aussi... plus on aime et plus on sait où on va vivre, si c'est le cas, que le retrait de cet amour va nous faire beaucoup plus de mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes préfèrent ne pas tomber amoureuses, ne pas s'attacher, ne pas rentrer dans des relations pour se protéger de la souffrance.
Mais quand on aime, aujourd'hui je comprends.
Ouais, quand on aime, on s'expose à la souffrance et malheureusement, parfois c'est ce qui va se passer dans nos vies. Mais vous, c'est l'histoire d'une reconstruction, donc ça c'est une belle histoire qui finit bien.
Mais en tout cas, Marc, ce qu'on peut peut-être vous dire, qui va vous aider aussi à trouver encore plus de force, vous avez quand même une force en vous, parce que vous pensiez que la vie n'avait plus aucune saveur, ne valait même plus la peine d'être vécue, et puis quand même, quelques temps après, vous arrivez à retomber amoureux. Donc on voit bien qu'au fond, vous êtes certainement quelqu'un de très entier, hein, donc c'est tout ou c'est rien. D'ailleurs, quand vous dites « elle m'a trahi », on sent bien que pour vous, c'est quelque chose d'insupportable. Quand vous donnez votre amitié, vous la donnez vraiment. Et si on vous déçoit, ça ne doit pas être facile pour vous non plus à vivre.
Tout à fait.
Voilà. Et ça, vous pouvez peut-être mieux le comprendre. Comprenez que vous êtes quelqu'un qui ne vit pas dans la tiédeur.
Et
comme ça, vous allez mieux vous connaître et vous allez pouvoir plus facilement dépasser les déceptions qui sont malheureusement inévitables. Je veux dire, on est tous déçus par des amis, par des collègues de travail, par des femmes ou des hommes. Vous êtes d'accord, Christophe André? De toute façon, la déception, malheureusement, ou alors on reste sur son île déserte.
Oui, elle est inhérente au lien. Dès que je m'attache, dès que j'établis une liaison, dès que je fais confiance, si je ne fais jamais confiance, je ne suis jamais déçu, effectivement, mais si je ne fais jamais confiance, je suis toujours seul. Je suis toujours dans la méfiance, dans la souffrance, et donc
alors,
ce sont des choix existentiels.
Il faut s'entourer de chiens, il n'y a que le chien qui ne va pas nous décevoir.
Ouais, ouais,
c'est pour ça que j'en ai trois.
Vous voyez, hein, ça ne m'étonne pas. Mais je vous comprends, Marc, moi aussi, hein, je souffre toujours beaucoup quand je suis déçue, mais j'ai appris, avec le temps, hein, c'est le privilège de l'âge, j'ai appris maintenant, quand je suis déçue, à arriver à relativiser, et c'est comme ça.
Disons que mon, c'est pas que j'ai appris, c'est que quand j'avais 25 ans, parce qu'aujourd'hui j'en ai 50, quand j'avais 25 ans et qu'on me parlait de psychologue ou de médecin lié à la psychologie, je me disais, moi dans ma tête en tant qu'ado, c'est eux les tarés. Donc vous voyez, j'avais ce raisonnement-là. Et aujourd'hui, franchement, je suis très heureux qu'on soit entouré de médecins comme ça professionnels. En psychanalyse et ainsi de suite, par rapport à la sexologie, vous abordez souvent.
Mais c'est normal, je crois que quand on est ado, on ne s'intéresse pas à savoir comment on fonctionne. Hein,
Non, on a besoin de faire des expériences de vie. C'est comme ça qu'on se construit. Puis après, on débriefe un peu avec soi-même ou avec d'autres personnes et on voit ce que ça nous a appris. Mais dans un premier temps, on est dans l'action avant d'être dans la réflexion.
Et c'est très bien comme ça. Il ne faut pas essayer de nous changer. Alors, la psychologie positive, c'est Jean-Pierre justement qui est avec nous et qui voudrait mieux comprendre de quoi il s'agit. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Brigitte, bonjour Christophe.
Bonjour Jean-Pierre.
Voilà, donc être positif au quotidien, c'est bien, mais techniquement, comment fait-on le matin quand on se lève?
On se lève du bon pied.
Oui, c'est tout l'enjeu de la psychologie positive. On est tous d'accord pour dire qu'on se préfère heureux que malheureux. Les chercheurs sont d'accord pour dire que ça peut se travailler, et puis à un moment donné, il faut commencer à se mettre au travail. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut rappeler. D'abord, qu'il n'y a pas un seul effort, mais plusieurs. Ça ressemble un peu au principe de la corde. Vous savez, dans une corde, chaque brin est tout fin, tout faible, et à lui tout seul ne peut pas faire grand-chose, mais lorsqu'on les associe, ça donne une corde qui peut soulever des poids importants. Donc, il y a des efforts comme ça multipliés. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces efforts peuvent aller dans toutes les directions. Par exemple, on montre que des tout petits exercices qui ont l'air de rien, comme par exemple tous les soirs, quand je m'endors, repenser à trois bons moments de la journée. Ça paraît rien. Voilà. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que si on ne fait pas cet effort-là, on s'endort plus volontiers en pensant aux soucis de la journée, ou bien aux soucis du lendemain. On tourne un petit peu dans notre tête tout ce qui nous a agacé, tout ce qui nous a déçu. Et là, la psychologie positive dit l'inverse, dit... Quoi que qu'il se soit passé dans la journée, même si ça a été une journée compliquée, de votre mieux, tournez votre esprit vers les bons moments qui ont quand même existé à ce moment-là. La blague que vous a raconté un copain, le bon plat que vous avez eu au restaurant à midi, une lecture qui vous a intéressé, une marche dans la forêt, de tous ces petits moments, revenez-y, ressentez-les, travaillez-les. Il y a ce type d'effort, il y a aussi des efforts comme le fait de rendre service à autrui. Toutes les découvertes, tous les travaux qu'on a pu faire en psychologie positive montrent que quand j'aide les autres, bien sûr que je leur fais du bien, mais il y a un effet boomerang, c'est-à-dire je me fais du bien aussi. L'altruisme est bon pour mon bonheur, la générosité, la gentillesse sont bonnes pour mon bonheur, donc il y a une multitude comme ça d'exercices que je décris dans le bouquin et qui sont décrits dans les travaux de psychologie positive. Chacun d'eux, ça paraît pas grand-chose, mais accumulé, ça finit par faire bouger beaucoup, beaucoup mon humeur.
Et alors, ce qui est surtout important, Jean-Pierre, à comprendre, c'est qu'en effet, on est, de manière humaine, assez naturellement plutôt attiré par les mauvaises nouvelles. Et les médias le savent très bien, parce que quand on écoute les infos, c'est plutôt des mauvaises nouvelles qu'ils nous donnent pour qu'on reste accro. Mais c'est dommage, parce que c'est les bonnes nouvelles qui nous rendent heureux et qui nous permettent de voir les choses positivement.
Ouais, mais notre cerveau fonctionne avec les bonnes nouvelles comme le font les poils en téflon, c'est-à-dire elles glissent. Et par contre, il fonctionne avec les mauvaises comme le velcro. Il les accroche et il les retient à l'esprit. Et donc, on a inversé un peu cette tendance à être un peu plus velcro avec les bonnes nouvelles, un peu plus téflon avec les mauvaises. Ça ne veut pas dire devenir inconscient ou s'en ficher, ça veut juste dire rééquilibrer cette tendance que nous avons à être des animaux inquiets et soucieux et accrochés au négatif.
Voilà, c'est comme dans un couple, hein, on a tendance à dire plus facilement des critiques que des compliments.
Exactement.
Et c'est vrai que pour que notre couple soit heureux, il vaut mieux donner des compliments.
Rééquilibrer au moins.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie. Là est l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Et pour ces quelques minutes qui nous restent à partager ensemble, je vous propose d'écouter notre sociologue du couple, Jean-Claude Kaufmann, bien sûr.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Et nous accueillons maintenant Jean-Claude Kaufmann, notre sociologue à moustache. Et là, comme ça, même à la radio, tout le monde vous visualise. Hein.
Moustache et crâne dégarni, oui.
Oui, oui.
C'est
vrai,
l'ensemble.
C'est vrai. Vous avez un physique qui se repère, hein, qu'on n'oublie pas. C'est votre marque de fabrique presque maintenant.
Hein. Ma moustache, c'est le chapeau de Madame de Fontenay, quoi. Hein. Je peux plus m'en séparer, quoi. Hein.
C'est, voilà, oui.
J'avais essayé de la raser il y a 4 ans. J'ai pas tenu plus de 6 mois parce que personne ne voulait de ma nouvelle tête, quoi. Ce n'était plus moi, quoi. Bon, bref, voilà.
Mais vous l'aimez, votre moustache, maintenant?
Oui, mais je m'en passerais bien, quoi, en fait.
Alors,
quoi.
Il faut
pendant ces 6 mois, je me suis senti plus libre. Non, mais c'est dur. Mon éditeur, qui n'était pas très content, puis dans ma famille, mes enfants,
les enfants ne supportent pas que le père change le look.
Mais surtout, ils ne m'avaient jamais vu autrement. Donc, c'était une autre tête. Ça fait extrêmement drôle. Une moustache assez importante et qui n'avait jamais été enlevée. C'est la tête qui est derrière. Quelqu'un de complètement différent. Bref, affaire classée, je suis condamné à la moustache, mais bon, je ne suis pas venu ici pour parler de ma moustache.
Non, je vous rassure, on va parler de ce livre qui vient de ressortir, La trame conjugale. Alors, c'est intéressant parce qu'aux éditions à Armand Collin, c'est intéressant parce que ce livre, vous l'avez sorti il y a 22 ans. 22 ans, ça fait quand même une génération.
Oui,
hein,
oui,
on est d'accord.
Je suis plus très jeune non plus.
Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'était votre premier livre. Et dans ce livre, vous abordiez, de votre point de vue de sociologue, bien sûr, le couple par rapport aux tâches ménagères. On est bien d'accord, hein?
Oui, j'analyse le couple en suivant la piste du linge. Parce que quand on interroge les gens pour voir comment fonctionne en couple, ils peuvent parler, bien sûr, expliquer comment il y a de la communication, des sentiments qui circulent, mais souvent on a tous tendance, et c'est très bien comme ça, à se raconter des belles histoires, quoi, à se raconter un peu l'histoire de sa vie réécrite d'une certaine manière. En suivant un indicateur concret comme le linge, on a une autre phase des choses sur tous les aspects, mais notamment quand même un aspect important qui est le partage des tâches ménagères, qui reste une question assez empoisonnante dans beaucoup de couples parce que on parle comme ça d'égalité, mais on est très très loin du compte.
On va revenir justement sur ce qui se passe dans le partage des tâches ménagères, mais ce que je voudrais dire qui me semble très important, Jean-Claude Kaufmann, c'est qu'au fond ce livre, donc vous le sortez en 92 et vous le ressortez en 2014, vous ne changez pas un mot parce que finalement il n'y a pas grand chose qui a changé.
Oui, donc l'éditeur m'a demandé une nouvelle préface, donc j'ai fait une préface par rapport aux questions là qui se posent aujourd'hui. À chaque fois qu'on réédite un livre, on le relit et puis on le réactualise.
Bien sûr.
En profite pour le remettre au goût du jour. Et là, ça a été complètement surprenant parce que j'ai pas trouvé une virgule à changer. Donc moi, ça me faisait moins de travail d'un certain côté, mais d'un autre côté, c'est très triste pour ce que ça dit de la situation d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'en 22 ans, ça n'a pas bougé. Du tout.
Donc,
du tout.
En gros, c'est que les hommes, finalement, ils sont pas encore très, très investis dans les tâches ménagères. Et puis, les femmes, de toute façon, quand les hommes font quelque chose, c'est jamais bien fait, hein, en gros, hein.
Oui, alors, les hommes, d'abord, ils ont une mauvaise conscience de pas en faire tellement plus, et puis ils ont aussi envie de participer malgré tout. Donc il y a 2-3 endroits où ils s'inscrivent un peu plus. Il y a la cuisine par exemple, plutôt la cuisine festive, hein, plutôt la cuisine quand on invite les amis, mais quand même il y a un petit peu la cuisine,
pas la vaisselle quoi,
pas surtout la cuisine de tous les jours quand on sait pas ce qu'il faut faire encore ce soir, qu'il faut refaire, se reposer la question le lendemain, etc. Donc ça c'est un peu moins, c'est plutôt la cuisine festive. Et puis il y a les nouveaux père. Ça c'est pas une invention, c'est réel. Ils s'investissent dans le rapport à l'enfant, notamment le bébé.
Mais ça n'a pas bougé depuis 92.
Si, ça a bougé.
D'accord.
Ça a bougé. On parlait, vous parliez de toucher tout à l'heure, justement. Ça c'est tout à fait nouveau par rapport au père d'il y a un demi-siècle. Les nouveaux pères touchent le bébé, quoi. Hein. Donc ça c'est quelque chose. Là c'est un changement considérable. Mais c'est dans l'ensemble des tâches ménagères et surtout ce qui touche au linge. Alors là, il y a une charge de féminité, hein, ça a été toujours très féminin dans l'histoire, le linge, et donc là il y a beaucoup de mal. Alors, l'homme qui rentre dans le monde du linge, il peut rentrer plus facilement quand il y a des machines. Quand il y a des machines, il rentre plus...
D'accord. Mettre du linge dans une machine, ça va,
mais il va faire ça à sa manière. Oh oui, sans parler de laver à la main, il va mettre dans la machine à sa manière, c'est-à-dire qu'il met tout dedans. Mm-hmm. Programme 30 degrés. Pour éviter justement les inconvénients. On appuie sur le bouton.
Mais il met tout, j'avais dit, il met aussi bien le short rouge avec la chemise jaune.
Tout. Dans mon enquête, il y en a main qui met ses baskets, hein, sans les secouer
et le
avant.
Chat, non.
Non, mais il ajoute, en plus, sa brasse, c'est efficace, c'est impeccable. Et très souvent, la jeune femme qui voit ça, les baskets avec les chemises, elle a comme un petit haut-le-cœur à l'intérieur et elle lui dit gentiment, écoute.
Laisse tomber, quoi.
Laisse faire, je vais m'en occuper. Elle préfère s'en occuper parce que ça lui crée un malaise intérieur. Et c'est comme ça, parce qu'au début, ça commence plutôt bien, au tout début de couple, parce qu'il y a très peu de tâches ménagères aujourd'hui. Le couple commence d'une manière très légère, comme ça, par le désir, le relationnel. Et puis, petit à petit, on installe le système de la vie à deux. Et c'est là que, progressivement, ça va se dégrader.
Oui, ce qui montre bien, une fois de plus, que quoi qu'on en dise, dans un couple, il y a toujours des luttes de pouvoir, et ça va se manifester dans tout.
Oui, alors, il y a des luttes de pouvoir, mais c'est aussi des fois le pouvoir, on le retourne contre soi. Je vais prendre l'exemple inverse, les quelques cas où l'homme peut se faire piéger. Il y a par exemple quand il y a un lave-vaisselle dans la famille, dans le couple. Alors le fabricant dit le lave-vaisselle, c'est pas compliqué, on met les assiettes là, tout, on met le produit de lavage, on appuie sur le bouton, ça sort, c'est propre.
C'est pas si simple que ça.
Déjà après, il faut ranger quand ça sort de la machine, mais même pour mettre dedans, les assiettes ça va encore, c'est assez calibré, mais tout ce qui est plus incertain, les poils, les bols et tout ça, il y a 1000 architectures possibles de la disposition des choses.
Oui, puis il faut rincer un peu avant de le mettre dans la machine.
Alors,
là
aussi, divergence.
Non,
il y en a qui rincent, il y en a, je suis de ceux-là, moi je lave à la main complètement avant de mettre dans la machine. Ça sert à rien, mais c'est comme ça.
J'ai toujours su que les moustachus étaient obsessionnels.
Il y en a qui ne rincent pas, puis il y en a qui mettent d'une manière, il y en a qui mettent de l'autre. Et il y a une petite guerre de pouvoir qui commence à se déclencher. Il y en a un qui... Alors c'est silencieux cette guerre. Hein. On guette du coin de l'œil et puis on voit le bol qui pour soi est de travers. Pour l'autre, il n'est pas de travers. C'est chacun son système. Et là, celui qui va être le plus fort, qui va imposer son pouvoir, revient et remet le bol à la bonne place. Et c'est comme ça que l'homme peut se faire piéger, parce qu'il a l'idée du bon ordre des choses, pour une petite chose comme ça, qui est de mettre les assiettes et les bols dans le lave-vaisselle. Mais tout le monde du linge, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les hommes vont faire d'une manière très cool, très souple. Par exemple, le bébé. le petit enfant. L'homme s'en occupe, il doit sortir le petit môme, il va l'habiller. Mais il va pas se casser la tête pour l'habiller. Il y a un pull qui traîne par terre, qui a une petite tache là au coude. C'est pas grave. Il habille, il tire-bouchonne le petit môme là-dedans. Et le môme est très content parce qu'il peut se rouler par terre avec papa. Il y a pas de problème. Et quand maman revient et qu'elle voit ça, comment monsieur a sorti le môme en public, souvent elle lui dit, écoute, franchement, ça, c'est pas possible. Ça va pas. Et elle va réimposer son pouvoir. Mais c'est un pouvoir contre elle-même. C'est un pouvoir piège parce que qui va lui mettre la charge du travail sur les épaules.
Oui, mais en même temps, je crois que c'est peut-être aussi la manière de fonctionner d'un homme et d'une femme, et là ça se traduit dans la trame conjugale comme vous l'avez écrit dans ce livre, mais c'est que l'homme va agir et va faire les choses de manière fonctionnelle et relativement rapide, et la femme finalement va vouloir voir tout dans le détail. Est-ce que c'est pas finalement ça aussi qui se traduit dans
les
tâches ménagères ?
Oui, alors tout le détail, c'est aussi un héritage historique. C'est pas une différence biologique du tout. Mais c'est une longue histoire historique qui met beaucoup de temps à évoluer. Quand les premières sociétés sont nées, il y a des millénaires et des millénaires. Il y a eu c'est Françoise Héritier qui travaille là-dessus. Il y a eu deux univers symboliques qui sont opposés, l'univers masculin et l'univers féminin.
Du côté pour la survie de l'humanité d'ailleurs.
Pour construire l'humanité sur des repères très très contrastés. Donc il y avait le monde des femmes autour de la symbolique de l'eau, tout ce qui touchait à l'eau, donc le lavage, le nettoyage. Et du côté des hommes, c'était le feu, la guerre, etc. Et quand, par exemple, les hommes s'investissent dans la cuisine, on connaît bien, c'est très souvent, par exemple,
le barbecue.
Mais ça vient de... Et ça, c'est pas du biologique, mais c'est tellement inscrit dans la mémoire collective, transmis de génération en génération depuis des siècles et des millénaires, que ça laisse des traces. Donc les femmes ont un savoir, encore une fois, vous parliez de toucher, elles touchent le linge d'une manière différente que ne le font les hommes. Elles vont trier, par exemple, trier avant de laver une partie à la main, d'autres à la machine, etc. Donc il va y avoir un système plus raffiné, plus sophistiqué. Et ça, on s'en débarrasse difficilement. Il y a cette phrase de cette femme que j'interrogeais, qui est très révélatrice. Elle me disait, je me dis je suis bien bête, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi parce que j'ai en moi cette exigence. Si la femme veut vraiment avancer, mais est-ce qu'elle le veut ? C'est pas obligatoire. Mais si elle veut vraiment avancer dans le partage des tâches,
elle doit accepter de se faire violence aussi.
Accepter que ce soit fait différemment.
Rien n'a changé. Les hommes et les femmes sont toujours...
Alors qu'on a l'illusion du contraire.
On a l'impression, que les hommes
participent
plus.
Déjà, quand le livre était sorti il y a 22 ans, on m'avait dit, oui, c'est intéressant ce que vous dites, c'est très intéressant, mais vous êtes bien sûr, parce qu'on a plein d'exemples autour de nous, la nouvelle génération, c'est en train de changer. Et en fait, c'était pas la nouvelle génération qui était en train de changer, c'est quand on est très jeune, au tout début du couple, ça se passe plutôt bien. Et puis, ça se dégrade ensuite progressivement, et puis il y a un grand saut avec l'arrivée de l'enfant, etc. Et là, on rentre dans un système qui est beaucoup plus traditionnel. Et aujourd'hui, encore, j'entends la même petite musique. Vous êtes bien sûr, on a plein d'exemples. Alors surtout parce qu'on entend beaucoup, quand il y a des hommes qui sont très corrects, donc on les entend beaucoup, c'est assez logique, quoi. Ils ont envie de se mettre, c'est des héros modernes, un peu d'une certaine manière, ils participent largement, mais ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble.
D'accord, donc ça reste encore la double peine pour les femmes,
travail plus les tâches ménagères. Et puis c'est pas une petite question, parce qu'on parle des fois du plafond de verre pour les femmes, qu'elles ont un déroulement de carrière, qu'au début le travail ça va, mais le déroulement de carrière plafonne, qu'il y a peu de femmes dans le monde politique, comme cadre dirigeant des entreprises, etc. L'explication, elle est là. Elle est là. C'est ça qui l'explique.
Et est-ce que, je sais pas, parce que c'est pas le propos de votre livre, mais vous avez sans doute aussi réfléchi à ça. Est-ce que ça vient aussi du fait que aujourd'hui encore, les parents vont plus facilement dire à la petite fille de mettre la table qu'au petit garçon, ou à la petite fille de faire son lit, enfin.
Oui, mais c'est un aspect secondaire, parce que les idées ont plus avancé dans l'éducation des enfants. Il y a encore pas mal de parents qui laissent le petit garçon en dehors des tâches ménagères, ou bien alors il va apprendre la cuisine, il aime bien faire des pâtisseries, des petites tartes, des choses comme ça, mais il va pas toucher au linge, par exemple. C'est beaucoup plus rare pour les petits garçons, mais quand même ça a avancé pas mal, et on a un certain nombre de cas où il y a des jeunes hommes qui arrivent en couple, qui savent faire un certain nombre de choses, et puis qui l'oublient progressivement. L'élément central, c'est le fonctionnement du couple.
Mais c'est ça,
vraiment le fonctionnement du couple. Où il y a un jeu de rôle qui se réinstalle.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils l'oublient, mais c'est comme, de toute façon, quand ils font quelque chose, ils sont critiqués. Voilà. Donc, à un moment, ils laissent tomber.
Oui, puis alors, des fois, il y a certains hommes qui ont plus ou moins, qui sont plus ou moins corrects. Il y en a qui comprennent que s'ils font mal, ça va être pris en charge par la femme. Donc, ils peuvent rajouter un petit peu.
Ils seraient manipulateurs.
Ça peut arriver quelquefois.
Alors, il y a une chose quand même que j'ai l'impression qui est plus souvent faite par les hommes maintenant qu'avant. Je sais pas si je me trompe, mais c'est peut-être c'est les courses. J'ai l'impression que les hommes vont plus facilement maintenant aller faire les courses que qu'avant.
Oui, mais alors les courses, on peut pas dire les courses comme ça parce que ça dépend si c'est les courses.
Mais avec... Les courses alimentaires.
Alimentaires, hein. Oui, mais courses alimentaires, ça dépend si c'est avec petit papier ou sans petit papier. Parce que le plus gros de la différence, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. C'est-à-dire avoir 1000 questions dans la tête quand on fait les courses, se dire comment je vais composer mes repas, est-ce que je choisis plaisir ou santé, frites ou épinards, etc. Il y a 1000 questions dans la tête et c'est très très compliqué de faire les courses sans avoir préparé le travail intellectuellement avant. Par contre, si on l'a préparé avant, on fait une liste de courses.
D'accord, donc il faut faire la liste à l'homme si on veut qu'il aille faire les courses.
Oui, bien sûr, faut l'aider et puis à partir de là, il pourra prendre des initiatives sur place,
etc. Jean-Claude Kaufmann, vous nous présentez les hommes
ils sont gentils, ils sont impeccables les hommes aujourd'hui, ils sont pleins de bonne volonté, ils sont beaucoup plus à l'écoute, ils sont beaucoup plus sensibles, communicants, parfois trop parce que du coup les femmes disent mais c'est plus vraiment des hommes du coup parce qu'ils ont répondu aux demandes des femmes d'être très communicants, à l'écoute et ils font des efforts, ils se sentent coupables de faire plus, mais les chiffres sont là.
Jean-Claude Kaufmann, excusez-moi, je vous coupe mais c'est intéressant, je reçois ce mail de Delphine, alors elle est en couple avec une femme et elle nous dit pourtant on a le même problème.
Oui,
exactement. Entre femmes. Oui, donc c'est bien une lutte de pouvoir.
J'ai été très surpris. J'ai eu des étudiants qui ont fait des travaux, des enquêtes sur des couples homo, hommes et femmes, et c'est très très étonnant parce que il y a un jeu de rôle complètement identique qui s'installe. Il y a le responsable un petit peu qui s'investit pour savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et qui du coup prend en charge parce que l'autre fait moins. Il y a d'une certaine manière l'homme et la femme dans le foyer et ça correspond pas aux attitudes dans la sexualité forcément quoi. C'est pas une histoire d'homme qui oppose biologiquement homme et femme. C'est le fonctionnement du couple qui veut ça. Le fonctionnement du couple incite à avoir un jeu de rôle complémentaire. C'est plus confortable mentalement quand il y en a un qui fait bien certaines choses et d'autres qui fait, par exemple, sur la sécurité, les risques. Il y en a un qui va être le gardien des risques, qui va faire attention un petit peu à tout, etc.
Donc, en fait, pour conclure, Jean-Claude Kaufmann, la meilleure solution, c'est que chacun ait bien son rôle réparti. C'est-à-dire que chacun, toi, tu fais telle chose, toi, tu t'occupes de la poubelle, toi, tu t'occupes du lave-vaisselle, toi, tu t'occupes...
Non,
ce
qui est important, c'est qu'on soit en accord avec ses idées. Hein, qu'on soit complètement en accord avec ses idées. Si on accepte que ça soit inégalitaire dans un couple, bon, bah, alors, si les deux l'acceptent et que ça roule comme ça, bon, bah, ça roule comme ça. Par contre, si la femme souffre que l'homme participe pas davantage, il faut voir comment faire, mais c'est un travail à deux. Et ça se discute, et une bonne manière d'avancer, c'est de voir là où il a envie de faire des choses, par exemple dans la cuisine, et à partir de là, l'inciter à élargir son espace.
Envie, il y a plein de choses qu'on fait, nous, les femmes, sans en avoir forcément envie.
Ben hein. Oui, mais
parfois même faire l'amour.
Oui.
Et on se quitte pour aujourd'hui, mais dès demain, dès 14h, bien sûr, on se retrouvera pour le meilleur de La Haye, l'amour et vous.
Sur RMC, ne ratez rien de La Haye, l'amour et vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.